RMC, entre les poteaux,
Roxane Lacusca.
Salut à tous, ce week-end, pas de 6 nations, place au top 14, week-end de faux doublons avec des équipes privées de leurs internationaux, période charnière de notre championnat, on le sait, et dans ce podcast, on s'intéressera aujourd'hui au cas palois qui doit de nouveau faire sans certains de ses cadres face à l'UBB qui aura soif de revanche après la défaite du match aller à Chabans. Mais l'actualité rugbystique, c'est aussi l'absence de Pierre Mignoni sur le banc toulonnais qui ne reviendra pas avant la fin de la trêve internationale. Là aussi, l'apéro des poteaux se penchera sur le sujet et pour m'accompagner aujourd'hui, on a viré les anciens de ce podcast.
Ça suffit.
Et on a dit place à la jeunesse. On a pris le pouvoir. Pierre Thévenet, Arthur Jean sont avec moi.
Salut les gars.
Salut à tous.
Allez, c'est parti pour la 18e journée de Top 14. Et on embrasse tous les anciens de ce podcast qu'on adore évidemment puisqu'ils nous écoutent.
Tous. Vraiment tous.
Ils nous écoutent tous, donc voilà, on dira pas de non, c'est mieux. Ce week-end de Top 14 démarrera par Clermont-Bayonne à 14h30 ce samedi. À 16h35, le multiplex dans lequel on retrouvera Lyon-Toulon, Montpellier-Racing, Stade Français-Perpignan et Toulouse-Montauban. L'affiche du samedi soir, ce sera Castres contre La Rochelle à 21h. Et le choc du dimanche soir opposera Pau à Bordeaux à 21h05. Petit point classement avant de rentrer dans le vif du sujet, messieurs. Toulouse toujours en tête avec 62 points. Pau devance d'un petit point l'UBB avec 51 points contre 50 pour les Bordelais. Montpellier, Clermont et le Racing complètent le top 6. Derrière, on retrouve le Stade Français en 7e position, suivi de Toulon, Castres, La Rochelle, Lyon et Bayonne. Et enfin, comme depuis le début de la saison, Perpignan 13e avec 18 points et Montauban dernier avec 7 points au compteur. Pierre, on va commencer avec toi et avec la première affiche à laquelle on va s'intéresser aujourd'hui, c'est Loup RCT, qui sera un peu particulier pour les Toulonnais puisque leur manager ne sera toujours pas de retour.
Oui, Pierre Mignoni qui est en retrait. On rappelle, après la dernière défaite face à Clermont à domicile, défaite large, la première de la saison à Mayol, il avait demandé 48 heures de réflexion en conférence de presse d'après-match en disant qu'il avait besoin de réfléchir. Ensuite, mercredi dernier, on a reçu un communiqué du RCT qui annonçait que Pierre Mignoni avait besoin de repos et avait pris une semaine de repos. On ne savait donc pas s'il allait être de retour pour ce match. Et finalement, il ne sera pas là. Il ne reviendra qu'après la trêve. Donc en attendant, c'est Sergio Parisse, André Massi, Maxime Petitjean, les trois adjoints qui s'occupent de l'entraînement avec l'entraîneur des Espoirs aussi, Cédric Béal, qui est monté avec les pros. On peut écouter Laurent Emmanuel, le directeur sportif de Toulon, qui, pour la première fois, expliquait un peu ce qui se passait avec Pierre Mignoni.
Le président et Pierre ont convenu que c'était le moment idéal pour lui de prendre un peu de repos. Le président s'est adressé aux joueurs la semaine passée pour les mettre face à leurs responsabilités et leurs obligations. Pierre n'a pas lâché, il avait tout simplement besoin de repos. Il va bien, il se repose, on l'a régulièrement, je communique régulièrement avec le président, moi-même, le staff, les joueurs aussi, donc vous inquiétez pas là-dessus, Pierre va bien. Les choses vont rentrer dans l'ordre et Pierre sera de retour à l'issue de la trêve.
Donc à l'issue de la trêve, ça veut dire après les deux semaines de pause qui auront lieu là avec les deux derniers matchs du tournoi de destination, il y a deux semaines sans pause. Ensuite, ils reprendront la compétition. C'est pas la cata du tout à Toulon. Hein, ils sont 8e de ce top 14 à 2 points du Racing qui est 6e. Mais c'est vrai qu'il y a eu 2 défaites sévères à Pau et surtout face à Clermont. Et la saison de Toulon, elle tenait sur l'invincibilité à domicile à Mayol puisqu'ils n'arrivent pas à aller chercher des points loin de chez eux à part sur la J1 à Montpellier. Et donc quand tu perds chez toi, tout de suite tu recules au classement. Et t'es loin en tout cas de ce que tu faisais l'année dernière. Et donc on ne sait pas exactement ce qu'a Pierre Mignoni. On lui souhaite évidemment un bon rétablissement, mais en tout cas ça semble être un peu trop pour lui et il a préféré s'écarter un petit peu. Donc à voir comment les Toulonnais vont réussir à gérer ce match-là à Lyon.
En fait le truc c'est qu'il a cette casquette qui n'est pas le cas de tous les managers en top 14, de directeur du rugby, ce qui fait qu'il chapeaute beaucoup de choses au RCT. On le voit souvent faire des actions avec les jeunes, s'occuper aussi des espoirs, etc. Il est très présent par rapport à autour de l'institution RCT. Donc le côté surmenage, quand tu ajoutes à ça...
C'est vrai qu'on le décrit souvent comme quelqu'un qui est très investi dans le club.
C'est ce que disaient ses joueurs en conférence de presse. Il s'occupe de tout, il aime bien un peu tout chapeauter, etc. Et même avec beaucoup d'adjoints, bah, faut s'apercevoir que voilà, avec des résultats qui sont négatifs, il n'arrive pas à inverser la tendance à l'extérieur. Depuis l'année dernière, Toulon, le RCT, ça reste quand même très compliqué en déplacement. C'est une des pires équipes du championnat à l'extérieur. Donc voilà, tout ça fait que forcément, il a besoin de prendre du recul pour mieux repartir. Après, il n'y a pas d'inquiétude, je pense. Hein, je suis d'accord avec toi, Pierre.
11e à l'extérieur, hein, les Toulonnais cette saison. Il n'y a que Bayonne, Perpignan et Montauban qui sont moins bons qu'eux. Et comme je dis, ça tenait à Mayol cette saison. Et en prendre 34 par l'ASM Clermont.
Oui, mais il n'y a pas péril en la demeure pour autant.
Pas du tout, mais
ça a surpris quand même pas mal de monde, ces déclarations. parce que quand à l'issue de ce match contre Clermont, où il dit qu'il se remet en, qu'il va falloir qu'il se remette en question, parce qu'on n'a pas l'impression non plus que le navire toulonnais prenne complètement l'eau.
Oui, après
l'eau
chacun le vit différemment. Si lui il a vécu comme ça, c'est
bien sûr. Non, mais je te parle d'un point de vue extérieur, d'un point de vue des supporters.
Bien sûr, mais je pense qu'on sous-estime le contexte toulonnais aussi, qui est très tendu, qui est très chaud à Toulon. Tout le monde vit par le rugby. C'est le cas aussi à Perpignan, par exemple. C'est le cas à Bayonne. Il y a des villes comme ça où c'est compliqué quand ça se passe pas bien d'arriver à faire abstraction de tout ça. Donc il a pris du repos et le problème, c'est que moi je pense pas que le déplacement à Lyon soit un déplacement facile du tout, parce que Lyon va beaucoup mieux. 3 victoires sur les 4 derniers matchs, ils sont allés gagner largement,
oui,
à La Rochelle notamment.
Des victoires qui te donnent de la confiance,
mais totalement, et même des défaites. Au Racing, ils perdent 35-34, un match qu'ils peuvent et qu'ils doivent peut-être gagner. À La Rochelle, ils gagnent largement à l'extérieur, ça leur était pas arrivé depuis un moment. Ils ont plus grand chose à jouer dans ce championnat, sauf que c'est encore très hypothétique, mais en fait ils sont à 8 points du top 6. Et c'est vrai qu'ils faisaient un début de saison tellement cata qu'on les avait presque éliminés, mais ils ne sont pas si morts que ça, ou en tout cas pour le top 8 pour aller jouer la Champions Cup. On en parlait de l'équipe qui allait peut-être être rattrapée par Montauban. Maintenant, c'est plutôt l'équipe qui peut regarder vers le haut. Et il y a tellement des super joueurs dans cette équipe que Guéza a l'air d'avoir retrouvé l'interrupteur pour remettre tout le monde vers l'avant. Et ça ne va vraiment pas être un déplacement simple pour les Toulonnais.
Il y a 2 journées, ils sont à 7 points de retard de la 11e place. Maintenant, ils sont, comme tu le disais tout à l'heure, à 8 points de 8 points de la 6e place. Ouais. Je veux dire, ça va très vite dans ce championnat qui est très serré. Ils peuvent regarder devant, alors que, comme tu le disais tout à l'heure, c'était plutôt Montauban et Perpignan qu'il fallait regarder. Et en parlant des joueurs dont tu parlais, des joueurs un petit peu clés au Loup en ce moment, Giulia Vanicolo qui marque un triplé en 10 minutes il y a 2 semaines est absolument exceptionnel en ce moment.
Sam Simon. Ouais, Sam Simon, c'est monstrueux.
On s'entendait sur la question. qui a pris le brassard d'ailleurs, ouais. qui est capitaine maintenant, qui est hyper actif. Même les matchs où le Loup perd de peu, souvent, comme tu l'as dit, Pierre, il est très très bon, il est très tonique, très explosif, très puissant aussi. Donc tu te bases sur ces joueurs-là pour évidemment aller gagner dans des contextes un peu compliqués parfois. Et le collectif aussi, le collectif, ils sont en train de se trouver, ces Lyonnais, depuis quelques semaines, on va dire.
Oui, dans le contenu, c'est quand même beaucoup plus, ouais, beaucoup plus agréable à regarder. En tout cas, ça a l'air d'être un peu plus solide, on va dire, que ce qu'on a pu voir sur les derniers mois de l'année 2025.
Carrément, et Arthur parlait de ce championnat très serré, on va en reparler après. Pau perd 2 matchs, il voit Bordeaux revenir. Lyon en gagne 2, ils reviennent sur les 6. Clermont est dans les 6 alors que c'était la crise il y a 3 semaines. C'est impossible
à
savoir.
Vite.
Au-delà
de
Toulouse et Bordeaux, qui pour moi y seront, même Pau, on peut remettre en question leur place dans les 6 parce qu'ils n'ont plus que 7 points d'avance sur le 7e. Ils en avaient 13 à la fin du mois de décembre. Ouais, ils ont déjà fondu la moitié de leur avance. Ouais. Donc c'est vrai que ça va très très vite dans ce championnat.
Pour revenir à Toulon, est-ce que c'est aussi, et vous avez le droit de ne pas être d'accord, je ne sais même pas si c'est véridique ce que je vais dire, mais est-ce qu'on doit s'inquiéter dans le contenu du jeu? Parce que moi, je n'ai vraiment pas l'impression que même dans le contenu, ce soit inquiétant.
En fait, on a déjà parlé dans ce podcast-là le vendredi qu'on sait que ce RCT de cette saison est moins bon. On l'a compris, à domicile comme à l'extérieur, et déjà que les résultats n'étaient pas bons à l'extérieur l'année dernière, c'est pareil cette année, et c'est encore pire, forcément. Il y a des cadres qui, je trouve, certains ne sont pas au niveau auquel ils avaient été. Je pense notamment à Jérémy Saint-Zel, qui est moins bon défensivement cette année aussi, qui prend de l'âge aussi, c'est normal. Zach Mercer, on attendait beaucoup de son recrutement aussi. Il n'est pas au niveau espéré, pour preuve, un joueur dont on reparlera tout à l'heure, mais il y a un petit joueur qui va faire ses débuts en troisième ligne centre à Toulon ce week-end. Voilà. Après, il faut profiter aussi de cette période où, là, les internationaux sont revenus. Baptiste Serin est titulaire, notamment. Benoît est revenu aussi. Enfin, ils ont récupéré les internationaux qui étaient pris par le 6 Nations.
Dréan
aussi, tout à fait, qui est titulaire. On aura un beau duel avec Vanicolo sur ce match-là. Donc, il faut profiter de cet élan qui est amené par ces joueurs-là pour rebondir. Et surtout, je pense que ce match peut permettre aux Toulonnais de conscientiser un peu leur potentiel. De se dire, en fait, on a moyen d'avoir le niveau à peu près de Pau ou quelque chose comme ça et d'aller chercher un barrage à domicile, très clairement. Ça doit être l'objectif, en tout cas.
Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ça fait longtemps que je pense que les Toulonnais vont être hors des 6, même quand ils étaient bien installés.
Hors des 6, quand
même.
Mais là, ils y sont. Là, ils y sont. Et pour moi, il y a des équipes qui tournent mieux dans ce style moche.
Mais tu remontes vite dans les 6, tu vois, genre une victoire.
Je suis d'accord, mais dans ce style de « je suis costaud et il ne peut rien m'arriver chez moi », Montpellier est plus fort en ce moment, le Racing est plus fort en ce moment. Et ça m'inquiète un peu parce que même en Champions Cup, ils sont beaucoup moins dominateurs que l'année dernière. Ils en ont pris une belle à Édimbourg contre le Munster. Ils ont galéré à domicile. Finalement, ils se qualifient. Je ne sais pas si c'est un cadeau parce que tu reçois les Stormers chez toi et derrière, tu vas peut-être péter à Glasgow, ce qui va encore te prendre de l'énergie. J'ai du mal à voir comment ils pourraient retrouver un peu d'étincelle dans ce jeu-là. Je pense que le départ de Leicester Feinganoukou pèse aussi dans cette ligne arrière où ce n'était pas hyper créatif, mais il avançait systématiquement. Et Thomas Albornoz aussi, il faut lui laisser le temps de s'installer. Enfin, il y a plein de zones d'ombre dans cette équipe qui me font dire que je ne suis pas très, très confiant sur leur capacité à aller dans les 6, encore moins dans les 4. Que y ait Pierre Mignoni ou pas, même si là, ça rajoute une couche encore, mais je pense que ce n'est pas grave que Pierre Mignoni prenne une semaine de repos et que ses adjoints vont faire le boulot. Mais je dis juste que sur le jeu que je vois depuis le début de saison,
j'ai du mal. Non, mais ça peut déstabiliser un groupe quand même, peut-être.
Bien sûr.
Ou le responsabiliser à l'inverse, parce que c'est ce que je leur disais aussi.
Et c'est ce que Laurent Emmanuelli a dit aussi.
Oui, oui.
Mais pour moi, une équipe qui n'a pas été capable d'aller faire des coups à l'extérieur, à part, on le rappelle, sur cette J1, qui depuis ne prend quasiment que des scores fleuves à l'extérieur, j'ai du mal à voir comment elle peut exister. Et surtout, si après, elle doit aller faire un barrage à l'extérieur parce qu'elle est 5 ou 6e, j'ai du mal à voir Toulon comme un protagoniste de la fin de saison, en tout cas.
Côté compo, est-ce que tu peux nous les donner, s'il te plaît, Pierre ?
On va commencer par Toulon, puisqu'on parlait d'eux. Dany Prizot est là avec Bobigny et Sinclair en première ligne. Donc sur le papier, il n'y a pas de souci, c'est costaud. Mezou, Ribans en deuxième ligne. Ludlam, Abadi et Chiochvili, on y reviendra tout à l'heure. Arthur en parlait en troisième ligne pour une première apparition en top 14. La charnière, Serein, Albornoz sur le papier, et ça donne envie. Saint-Zel, Smiley au centre. Villiers, Dréan, Marius Daumont, avec notamment Melvin Jaminet et Mathis Ferté sur le banc. Côté lyonnais, Ray, Marchand et Hensley en première ligne, Théo William et Quinn Roux, l'Irlandais, en deuxième ligne, et puis Dylan Crétin, Sam Simons et Arnaud Botta en troisième ligne. Baptiste Couillou n'est pas là, c'est Charlie Cassan qui est titulaire à la mêlée, avec Martin Méliande qui lui aussi est énorme depuis plusieurs semaines, l'ancien Racingman qui est très très bon, ouais. Théo Millet, Alfred Parisien au centre, Wayne Nicolo, Dubortier aux ailes, et Gabin Laure qui lui aussi revient bien titulaire à l'arrière.
Donc deux effectifs qui quand même sur le papier peuvent rivaliser l'un avec l'autre, Arthur.
Ouais, sans doute, ouais. Bon, ça sera serré ce match, c'est à peu près sûr. Mais c'est dommage de voir le Pierre Mignoni sans Pierre Mignoni quand même.
C'est vrai.
Notre petit regret du
qui a gagné la Challenge Cup, on le rappelle, avec le loup Pierre Mignoni.
Exactement.
Et avec Toulon.
Et avec Toulon, tout à fait.
Sa spécialité.
Match à suivre, donc, ça sera samedi à 16h35. On passe à l'affiche, je pense que tout le monde attend, messieurs, pour ce week-end.
Ça me fait peur, ça.
Notre fameuse affiche du dimanche soir, 21h05. Et peut-être que cette fois-ci, il y aura vraiment match ou pas, je ne sais pas, vous allez dire.
Ça peut finir en match nul. Hein. Ça peut
un vrai choc pour vous, même si les internationaux ne sont pas tous là.
Ouais. Oui. De toute façon, c'est les deux en dessous Toulouse qui bataillent pour la deuxième place. C'est marrant parce qu'il y a deux manières d'avancer dans la communication par rapport à cette deuxième place. Yannick Bru joue depuis quelques semaines la carte du « nous, on va chercher le barrage à domicile », alors que là, contrairement à Pau, où en fait le président a dit cette semaine, Bernard Pondeau, que c'était un match charnière pour savoir si effectivement ils allaient se donner comme objectif de jouer cette deuxième place. Donc, il y a ça, et sur le terrain, bah forcément, c'est très fort. De deux côtés, la question qu'on se pose, c'est peut-être avec le retour des internationaux à Bordeaux, qui n'aura pas forcément lieu à Pau, voir l'état des deux
équipes. Il y a deux absents à Bordeaux, juste liés à l'équipe de France, hein. Biel Biarret et Jalibert, il y en a trois à Pau, à Tissokbe, Broboiré et Gaëtan. Après, il y a les blessés, mais ce sont les trois
qui sont gardés avec les deux
disponibles.
Ouais. Exactement. Donc, il y a deux manières différentes d'avancer, sachant qu'il y avait évidemment plus d'attentes sur Bordeaux. La question que je me pose par rapport à Pau, c'est par rapport à l'effet que les doublons ont eu sur cette jeune équipe, parce qu'on ne va pas dire qu'on la découvre, mais eux se découvrent un peu eux-mêmes dans leur potentiel, dans leur manière d'aborder les choses pendant les doublons.
On le sait, c'est une période qui est très particulière à négocier. Et quand on est une jeune équipe, entre guillemets, qui joue en tout cas ces rôles-là dans le championnat, ça peut être... comme tu le dis, une espèce de découverte.
D'autant qu'il y a ceux qui jouent, mais il y a ceux qui font les allers-retours. Desperes, ça fait des allers-retours. Daubagne a fait des allers-retours. Grand Didier, Arfeuil aussi. Donc, ils peuvent jouer tous ces joueurs-là, mais ils n'ont pas été à Pau pendant toute cette période.
Tu prends la leçon à Toulouse, tu t'en prends presque 60, si je me souviens bien.
40 à Perpignan.
40 à Perpignan, ça c'était peut-être la défaite qui pose le plus de questions dans le contenu, parce que beaucoup de ballons tombés, une défense totalement perméable en première mi-temps. Et cette victoire, pas forcément convaincante aussi contre Toulon, où en fait tu découvres un peu ton pack, parce que c'est avec le pack, il y a trois essais qui sont inscrits par les talonneurs sur ce match-là. Donc on se disait qu'on se découvre aussi, et il y a peut-être plus de négatifs à en tirer que du positif. Après, évidemment, il faut nuancer, parce que tu le disais, Roxane, c'est une équipe jeune qui apprend à connaître ces périodes-là. Donc voilà, il ne faut pas oublier non plus qu'il y avait deux défaites à l'extérieur aussi. Et forcément, top 14, on sait à quel point c'est important de jouer à domicile à l'extérieur. Donc on va voir ce que ça va donner ce match-là. Mais en tout cas, je suis à peu près sûr que ça sera serré. Et que je pense même que Bordeaux est capable d'aller chercher un résultat sur la pelouse de Pau.
Moi, j'ai peur pour Pau dans cette fin de saison. Et surtout sur ce match, je pense que ça peut être vraiment un tournant. Je suis assez d'accord avec Bernard Pondeau. Parce que Bordeaux va arriver... mieux armé sur le papier. Lucu est là, Moefana est dispo, Penaud est là. Et en plus, avec le souvenir qu'ils ont perdu à Chaban au match aller.
D'un point, 34-30 points.
Exactement.
C'est dur, ça.
Et c'est ça pour l'instant qui fait la diff entre les deux équipes. Pau avait et c'est pas forcément lié aux internationaux, mais Pau avait une période importante de 4 matchs, dont 3 à l'extérieur. Ouais. Et on se disait, est-ce que c'est une équipe qui va être capable d'aller chercher des points à l'extérieur ? Ça n'a pas été le cas. Ils perdent à Lyon, ils en prennent une belle à Toulouse, ils en prennent une belle également à Perpignan. Au milieu, ils gagnent un match à domicile contre Toulon. Mais j'espère pour eux qu'ils vont réussir à rivaliser avec Bordeaux. Mais s'ils perdent ce match-là, il va falloir être costaud sur la fin de la saison, parce que ils vont rester à 51 points. Ça veut dire que Montpellier peut leur passer devant. Ça veut dire que Clermont peut revenir à hauteur aussi. Et si tu te retrouves 5-6, hop, tu peux revoir les vieux démons, de dire est-ce qu'ils ont le niveau pour le top 6, est-ce que... Et donc c'est pour ça que la fin de saison me fait un peu peur. Après ce match-là, il y a 2 semaines de pause, puis ils vont à La Rochelle qui va être en besoin de points, et ils reçoivent le Racing qui est une équipe plutôt à l'aise à l'extérieur. C'est des matchs qui peuvent vite leur échapper, et ils ont produit un jeu qui est tellement séduisant depuis le début de l'année que j'espère qu'ils vont réussir à se maintenir là. Mais c'est vrai qu'il est très important pour eux, et celui-là, s'ils le gagnent, ça va vouloir dire beaucoup, parce que battre Toulouse au match aller, c'est quelque chose, aller à Bordeaux gagner, mais là, c'est un match sur lequel, peut-être pour la première fois de la saison, la pression est sur eux.
C'est ce que j'allais dire. Là, sur ce match-là,
il y a plus l'effet de surprise.
La pression est vraiment sur
Pau. Il n'y a plus l'effet de surprise, il n'y a plus le truc de je vais aller taper Toulouse, machin. Non, ils ne peuvent pas le perdre, celui-là. Ils ne peuvent pas le perdre, et ils n'ont pas leurs 3 meilleurs arrières de disponibles. Ouais. Donc, c'est vrai que ça va être hyper intéressant.
Ça va peser quand même dans la balance de ces trois-là.
Bah, totalement. Tissokbe, même s'il est revenu qu'au mois de janvier, donc il n'est pas là sur toute la première partie de saison, mais c'est le facteur X de la ligne arrière. Et puis, Brobouré-Gaëton, j'aime beaucoup Valentino, j'aime beaucoup Nathan Decroux, mais c'est la grande force de cette équipe. Et évidemment que tu sens la différence. Joe Simons n'est toujours pas là, en plus, au demi d'ouverture, même si Despéré se fait un super intérim. Mais pour moi, ouais, si celui-là, ils arrivent à le gagner, ça enverra un bon message pour la fin de saison. D'autant que si Pau ne finit pas dans les deux, ça va être très compliqué d'aller en finale. Alors, en finale, ça paraît très loin, mais pour moi, c'est un objectif qu'ils peuvent se donner sur la saison.
Bien sûr, bah, s'ils sont dans les deux, de leur saison, en tout cas,
t'es frais. Là, j'en sais rien. Sur le classement actuel, t'es frais. En demi, tu reçois Montpellier ou Clermont. Bon, bah, je vois Pau partir favori sur une demi.
Ouais, clairement.
Enfin, recevoir, c'est sur Internet, mais t'es frais et tu affrontes Montpellier ou Clermont, tu peux aller en finale. Si tu passes par un barrage avant, et qu'en plus, ça veut dire que tu tapes Toulouse ou Bordeaux en demi, et bah, ça change complètement la lecture de la saison. Donc,
Sachant que t'auras très certainement une équipe pénible à jouer en plus à la maison.
Mais totalement.
Même si c'est chez toi. Devoir avoir un Montpellier en barrage ou un Clermont, c'est jamais chose aisée. Quoi.
Même si j'ai dit une bêtise sur le classement là, ce serait Bordeaux ou le Racing en demi-finale. Mais t'arriverais frais, oui, contrairement aux autres. C'est ça le point.
Toi aussi, ce match, il te fait peur, Arthur ?
En fait, j'ai aussi envie de voir le côté retour en grâce des Bordelais, parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus de signaux positifs du côté de Bordeaux. Vous en parliez tout à l'heure sur le côté des internationaux qui sont soit déjà sur place avec Penaud, Lucu qui sont restés à Bordeaux. Avec ceux qui redescendent aussi. Tout ça associé à des joueurs qui sont en pleine forme. Bentami Funa est revenu à un très très haut niveau. On l'a vu les dernières semaines. On en reparlera aussi. Mais Larag, le 10 qui est le troisième 10 de l'équipe derrière Jalibert et Carberry, qui est aussi très bon. Je me dis que tout ça, tous ces signaux positifs-là, avec tous ces internationaux qui sont en grande forme, etc., je ne pense pas que Pau va prendre une volée à la maison. Ça me semble compliqué. Mais c'est le moment parfait aussi pour Bordeaux, pour prouver quelque chose et pour dire, vous nous avez peut-être oublié parce qu'on a fait quelques matchs pas terribles ces derniers temps, mais on va revenir très fort. Et là, c'est
qui double signaux à envoyer, à la fois au top 14 pour dire ne nous enterrez pas, on est là, et à la fois pour les internationaux qui ne sont pas avec le 15 de France, on pense notamment à Damien Penaud.
Et Maxime Lucu.
Et Maxime Lucu,
que Nolan Legarec a été rappelé, mais pas Maxime Lucu.
Et ça allait être ma prochaine question, justement. Maxime Lucu, qui devrait être, selon les informations de notre grand Nicolas Paolorsi, grand par l'esprit, devrait être titulaire et capitaine, Maxime Lucu. Donc, il n'est pas avec le 15 de France. Il n'a pas été rappelé dans la liste des 42 de Fabien Galthié qui a été dévoilée aujourd'hui. On enregistre le vendredi. Est-ce que vous comprenez, vous, ce choix de Fabien Galthié de ne pas prendre Maxime Lucu, qui jouerait très certainement, s'il venait, pour ne pas déboulonner Baptiste Serin, qui devrait être le troisième demi de mêlée, entre guillemets?
C'est compliqué parce que je pense que si demain il y avait une demi-finale de Coupe du Monde à jouer, Maxime Lucu il serait dans le groupe. Là, ce serait très dur de sortir Baptiste Serin de cette équipe parce qu'il a eu des bouts de match, il a été très bon sur ses entrées.
Super entrée en 5 ou 10 minutes à chaque fois, c'est assez impressionnant.
Exactement. Faut aussi garder en tête qu'il y a cette idée de rotation de la part de Fabien Galthié. Il a dit clairement que certains cadres qui ne seraient pas dans les 23, il préfère les laisser de côté pour ne pas les embêter à venir, en gros, tenir les boucliers à Marc aussi, même si le poste de demi-mêlée, c'est différent parce qu'ils ont tous, les trois ont un rôle à jouer. Il y avait un choix à faire entre Legarec ou Maxime Lucu. Peut-être que Fabien Galthié avait simplement envie de revoir Le Guérec avant. Des fois, c'est juste voir comment il va, le réintégrer au groupe. C'est un demi-mêlée qui est plus jeune, qui va être là pendant plus longtemps en bleu, donc il a peut-être aussi plus besoin de le voir. Ça tient peut-être à ça. Peut-être que Nolan Le Guérec va aller cet été en Nouvelle-Zélande et pas Maxime Lucu parce qu'il sera finaliste. Enfin, ça peut être plein de raisons différentes dans l'esprit de Fabien Galthié. Je ne pense pas que ça veuille signifier un déclassement de Maxime Lucu. C'est surtout ça. Et je pense et j'espère que Baptiste Serin va continuer à être aligné derrière Antoine Dupont sur la suite du tournoi parce que pour l'instant, il est irréprochable dans ses entrées.
T'es d'accord avec ça, Arthur ?
Complètement. Pas grand-chose à ajouter.
Merci.
Non, pas grand-chose à ajouter. J'ai une info mercato pour vous, si ça vous intéresse. Vu qu'on parle de Pau Bordeaux-Bègles, un joueur de Bordeaux qui a signé à Pau pour la saison prochaine. Bastien Verneuil-Faire. Voilà, en grande surprise. Voilà, c'est important de le signaler quand même. Et aussi, on parlait des demi-mêlées bordelais. Martin Pagerello, ils vont perdre Martin Pagerello, l'UBB.
De Martin Pagerello.
Pagerello, effectivement.
Ah oui. Il a fait France Italie la semaine dernière, il parle italien.
ça y est. Il va se faire opérer, du coup, parce que lui est victime d'une pubalgie. Ça fera 6 semaines d'absence. Donc, peut-être pas plus de temps de jeu pour William Hutto à Bordeaux.
Voilà. Et simplement, juste pour revenir sur Bordeaux. Roxane, tu parlais de la meilleure phase des Bordelais. Moi, je trouve quand même qu'il y a des petites failles dans cette équipe. Même la victoire contre Castres, qui finit à 57-32, je trouve qu'ils prennent beaucoup de points un peu facilement. Ils perdent quand même contre le Stade Français chez eux il y a 2 journées. Même à Montauban, tu gagnes 31-16. C'est peut-être un des plus petits scores qu'a pris Montauban cette saison.
Très difficile la première mi-temps.
Donc, je trouve qu'il y a encore du boulot pour Bordeaux. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a moins de pression sur eux. C'est qu'ils peuvent basculer eux du bon côté. Et
Bien sûr. Non, mais c'est un peu ça. Si Bordeaux gagne ce match, ils ont tout gagné.
Ils s'ouvrent tout. Ils montent sur le podium et derrière, il va falloir les sortir.
Ouais. Oui, c'est sûr. Est-ce qu'on a d'autres infos concernant les compos ? On sait que les matchs du dimanche soir, on ne sait pas tout dès le vendredi.
Apparemment, on se dirigerait vers quasiment la même composition que contre Castres, avec le jeune Larrague qui a 19 ans en numéro 10, vu que Joey Carberry s'est fait les ruptures du ligament croisé. Il n'y a pas beaucoup de changements. Maxime Lamotte serait titulaire au talon. Et avec le retour des internationaux, on va voir comment ça va se passer. Mais il y a une bonne majorité qui serait titulaire normalement ce week-end contre Pau.
Je vais vous demander de vous mouiller, messieurs. Est-ce que vous avez un petit pari pour ce week-end ? Pour ce dimanche ?
Pour ce match ?
Non, pour ce match-là, oui.
Moi, je dirais victoire de Bordeaux.
Pareil.
De Bordeaux ?
Ouais, victoire de Bordeaux et Pau dans le bonus.
Voilà. Ah, je ne mettrai pas Pau dans le bonus. Ouais. Je ne mettrai pas Pau dans le bonus.
Tu les vois perdre
Je vois un score de Super Rugby, un 40-20. Quelque chose.
Tu vois, ça va être mouillé.
Gros match du dimanche soir.
Mouillé, va être pleuvoir, il va y avoir
12-10. On sortira ce podcast et on dira qu'on est vraiment des experts.
Juste à évoquer William Hutto, c'est son grand frère, c'est Valentin qui joue à Porto.
Oui, William Hutto, c'est vrai. C'est une vieille connaissance.
Je me suis dit, mais attends, c'est qui William Hutto ? Je me dis, c'est moi qui
c'est
moi.
C'est vrai, c'est vrai. Son grand frère qui avait joué à Clermont.
Donc Arthur qui nous parle de ses amis finalement dans ce podcast.
Connaissance.
Des grands frères des joueurs de top 14. On va pouvoir faire le tour.
Donc vous l'aurez compris, c'est l'affiche de dimanche soir 21h05. Pour vos deuxièmes matchs, messieurs, qu'est-ce que vous avez choisi ? Arthur, je commence par toi.
J'ai choisi Castres-La Rochelle.
Oh, quel merveilleux choix.
Et oui,
mais Roxane va pouvoir en parler.
Bien sûr. Je vais partir sur Castres du coup, puisque tu nous parleras de La Rochelle, toi, pour Roxane. Parce que ce sera la fête à Castres ce week-end. Et pourquoi ? Non pas parce qu'il n'y a que du sportif, mais il y aura aussi de l'extra-sportif, parce que c'est les 120 ans du club. Voilà, sachez-le.
Ah.
J'ai un petit quiz pour vous. Il n'y a que 3 clubs qui sont restés dans l'élite depuis le passage au professionnalisme en 1995. Il y a Castres et après.
Toulouse,
bien joué. Et
Clermont.
Exactement.
Il est trop fort, même pas un quiz, c'est trop facile. Sur le visage.
Ah, ils n'ont pas gagné beaucoup de finales, mais ils étaient là tout le temps. D'accord.
Ça, le palmarès de Clermont.
Voilà. Donc ouais, on l'oublie un peu que Castres est un club historique de notre championnat. Donc voilà, il va falloir fêter ça sur le terrain. C'est un bel adversaire de gala, La Rochelle, pour fêter tout ça. En parlant d'histoire, Mathieu Babiot lui sera là, qui dispute actuellement sa 20e saison avec Castres. Donc il y a beaucoup de raisons de gagner ce week-end contre La Rochelle. C'est en plus au niveau sportif.
La Rochelle
sportif,
a beaucoup de raisons de perdre.
Oui, c'est sûr. Bah, oui.
J'ai hâte de t'entendre sur la question, Roxane, après. Mais sportivement, ça reste 2 candidats au top 6. Tout de même, Castres est 9e à 4 points de la 6e place. Toujours dans la course, disons, pour le top 6. La Rochelle, c'est mieux dit comme ça, je pense. La Rochelle est 11e à 8 points du top 6. Il y a une meilleure dynamique pour Castres, je pense quand même, qui est sur 3
victoires. Ah bah c'est pas compliqué, c'est une meilleure dynamique voilà. Pour Castres que pour La Rochelle, je te le confirme.
Qui n'a plus gagné depuis le 4 janvier, La Rochelle. Je te laisse enchaîner du coup, Roxane, parce que...
Comment enchaîner avec ça ? Non, pour La Rochelle, je pense que ce sera... Vous allez être d'accord avec moi, ça va être un déplacement ultra compliqué. On sait déjà que se déplacer à Castres, c'est jamais évident.
Mais simple,
dans ce contexte-là, avec La Rochelle qui compte un nombre de blessés, je n'ai même pas le nombre exact.
16 blessés.
16 blessés.
Donc 4 centres.
Donc ils font appel à des jokers médicaux, dont un parisien.
Oui, Andy Timo qui a débarqué à La Rochelle, champion olympique à 7. Qui n'est pas dans le groupe pour ce match-là, mais qui a débarqué à La Rochelle.
Exactement. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça va être extrêmement compliqué pour La Rochelle d'aller chercher une victoire sur ce match-là. Elle ferait énormément de bien si elle arrivait, ça c'est sûr et certain. Mais dans le contexte actuel où tout est un peu remis en question quand même dans ce club en ce moment, je les vois mal aller gagner à Castres quand même.
Mais j'ai du mal à voir quoi que ce soit sur la fin de saison Rochelet.
En fait, c'est un peu le grand désespoir des supporters Rochelet.
Et puis c'est un flou, c'est un marasme. C'est-à-dire que normalement, tu as la marge pour le maintien. Donc, je ne vous le souhaite pas de jouer ça, mais il n'y a même pas ce côté de il faut gagner des matchs.
C'est ce que tu dis en tant que supporter. Tu dis heureusement que Perpignan a eu un début de saison ultra compliqué parce que sinon, à cette heure-ci, tu serais déjà en train de regarder derrière. Et ce n'est pas fini. Hein.
Bien sûr, non, mais il y a quand même une marge conséquente.
Il y a une marge, mais on sait que ça va vite. Si tu refais la même série que l'année dernière où tu ne gagnes pas pendant 10 matchs, tu commences
à
regarder derrière.
Oui, mais il y a quand même 17 points. Il y a quand même 17 points sur Perpignan qui est 12e. On est allé à J18. Enfin, tu vas quand même gagner quelques matchs à De Flandre. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que je ne sais pas ce que La Rochelle peut jouer. En fait, Ronan O'Gara n'a pas l'air particulièrement menacé. Je dis pas qu'il faut le virer, mais on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de réaction. Tu as pris 43 pions par Montpellier chez toi lors de la dernière journée. Tu en avais pris 44 par Lyon à celle d'avant. C'est des matchs à De Flandre, ces deux derniers matchs.
Tu en avais pris contre Harlequins aussi la semaine
d'avant. Oui, exactement. Tu es sur 5 défaites consécutives, dont 3 à domicile. Tu n'as pas eu un Tour de France compliqué à jouer.
Il n'y a pas beaucoup
de raisons d'avoir perdu ces matchs, en fait, à part les blessés, évidemment, comme tu disais, Roxane, parce qu'il y a quand même une hécatombe à La Rochelle. Mais c'est vrai que j'ai dû...
Les blessés et le projet de jeu que je pense tout le monde a du mal à avoir.
Il est incertain.
Tu ne sais pas quel est le projet de cette équipe.
Sachant qu'en plus, Oscar Jégou ne sera pas là puisqu'il est protégé. La compo, c'est de l'expérimental. Hein. Côté Stade Rochelet, je peux vous la donner si vous voulez. Première ligne, Kadouri, Bourgarit, Féao. Deuxième titularisation en top 14 pour le pilier droit.
Deuxième match pour Bourgarit, si je ne me trompe pas, qui n'a pas joué sinon le reste de la saison.
Sans doute.
Il va faire du bien.
Je te fais confiance là-dessus.
J'espère.
Ouais.
S'il ne blesse pas.
On espère aussi. Kanté Samba, du coup, en deuxième ligne, qui est associé à Boudéan. Donc, quand on parlait d'expérimental.
Boudéan en 5.
Boudéan en 5.
Ouais, voilà. Il peut jouer à peu près tous les postes devant, sauf peut-être ceux de première ligne.
Boudéan qui s'est épaissi. On l'a vu à Marcoussis. Ouais. Il est énorme, Paul Boudéan. Non, mais sans mentir, on s'est tous regardé. Il a
un buffle.
Son buste, il a encore pris 5 cm de.
Il partait pas de loin, pourtant, je veux dire.
Ah non, mais c'est vous verrez sur le terrain. Moi, il m'a étonné physiquement.
Il sera du coup pas en troisième ligne, ou en troisième ligne, on aura Levani Botia, Kirill Freint de l'autre côté, en troisième ligne elle, et Grégory Aldrit évidemment en troisième ligne centre. La charnière, Nolan Le Garec, qu'on en parlait tout à l'heure, associé à Antoine Astoy, peut-être ses derniers matchs à La Rochelle.
Oui, parce qu'il est sur le départ et à la place de Ben Illy devrait débarquer à La Rochelle.
Tu n'as pas l'air satisfaite.
Super joueur.
J'avoue que je ne le connais pas plus que ça, étant donné qu'il n'a joué que 6 matchs l'année dernière, je ne l'ai pas vu, je l'avoue. Pour moi, Ben Illy, c'est un cycliste, vraiment.
C'est Grand Plateau qui te rattrape.
C'est Grand Plateau qui me rattrape, exactement. Vas-y pour la ligne arrière, pardon.
Pas de souci. Au centre, on a Adrien Séguré qui est encore associé à David Ignashvili, voilà, qui joue deuxième
centre.
Qui retrouve Castres, tout à fait. Aux ailes, Jack Noël et Dylan Leeds, du classique, et Hugo Pacôme en 15. Voilà.
C'est expérimental. Après,
certains joueurs
que tu peux faire de toute manière, vu les blessés, tu ne peux pas faire beaucoup mieux.
Il faut de toute façon, c'est très clair.
Et petite question, c'est quel match vont réussir à gagner les Rochelais sur cette fin de saison? C'est que là, tu vas à Castres, tu reçois Pau. Sur le papier, je dis que La Rochelle est favori, mais dans le niveau de jeu, après le tournoi, c'est-à-dire que les internationaux de retour, je ne suis pas sûr que La Rochelle le gagne. Ensuite, tu vas à Bayonne, qui va avoir
besoin
de
points
comme toi.
Presque.
Tu reçois l'UBB. Tu vas à Perpignan où il y a plus grand monde qui gagne. Tu vas au Racing où personne n'a gagné cette saison. Tu reçois Toulouse, c'est pas dit que tu le gagnes. Ah, tu vas à Montauban le 30 mai.
Et peut-être
là,
la lumière.
Elle est peut-être là, la lumière.
C'est
très
loin le 30 mai.
Non, mais je blague, mais c'est pour dire que j'ai du mal à voir les Rochelais redresser la barre.
Bien sûr, c'est
après,
pour ça.
Ça va revenir. Le Garec revient, ça va faire du bien. Il y a du monde. Birogarit, ça va faire du bien. Mais c'est vrai qu'on a du mal à.
Si
Skelton
reviendra, ça fera du bien aussi. C'est le genre d'absence qui revient. Énormément de mal à cette bien équipe. Sûr. Et puis, je pense qu'il ne faut pas négliger aussi le départ précipité de Winnie Antonio, qui a dû plonger le groupe aussi dans une incertitude qui, déjà, n'était pas qui n'était pas très certain. Là, ça l'a plongé dans une incertitude d'autant plus grande.
Une incertitude
quoi.
Donc, encore plus incertaine.
Exactement, une incertitude encore plus incertaine.
C'est presque la poésie à ce niveau.
On a donné la compo Rochelaise, on peut peut-être donner la compo Castres.
Bien sûr.
On va normalement dérouler face au Rochelais.
Il y a de fortes chances. On verra. Quant à Walker, en première ligne avec Aurélien Hazard et Teddy Durand au talon. En deuxième ligne, Tom Staniforce qui est redescendu de marque aussi, associé à Guillaume Ducas. En troisième ligne, du grand classique à Castres, Abraham Papali, en 8, avec Baptiste Delaporte et Baptiste Kopp, les deux Baptistes. La charnière, Arata Poplin. Au centre, Botitou Caravalez-vous, qui est très,
le monstre.
Très fort en ce très moment. Rémi Bagé à une aile, Christian Badiang à l'autre, et à l'arrière, Théo Chabouni.
Ouais,
à
Castres, t'as 28-30 joueurs et ça tourne.
Et ça tourne.
Tous les ans, ça tourne.
Ça tourne très bien.
Oui, non, mais c'est ce
qu'on dit. Ils sont en 8e de
gagner là-bas.
Cup et ils sont dans le.
Ouais. Oui, non, mais gagner là-bas, c'est
pas le bon endroit où aller quand t'es pas bien.
Non, c'est sûr. Passons à autre chose, si vous le voulez bien.
On a séparé d'un.
Pierre, quel match as-tu choisi en deuxième affiche à suivre?
MHR Racing, le match débouché.
Choc des Titans.
Pour moi, le deuxième match le plus intéressant après le Colazoico, exactement. Après le Pau Bordeaux, qui sera sans doute bien plus plaisant. Regardez, si vous êtes des fans du beau rugby, allumez le dimanche soir plutôt. Mais alors, si vous voulez un match qui, on n'était pas d'accord avec Arthur, mais qui pour moi va être serré, ou en tout cas où ça va taper très très fort, c'est ce Montpellier Racing. Au classement, ils se suivent quasiment. Montpellier est quatrième, le Racing est sixième. Montpellier, ça tourne super bien depuis plusieurs semaines. Ils sont sur une période hyper positive, les Montpellier. Et c'est pour moi, et on en discutait pas mal avec Julien Landry qu'on embrasse, c'est peut-être l'équipe qui peut le plus embêter Toulouse et Bordeaux dans le style de jeu en demi-finale, pas en finale, mais en demi-finale, c'est une nuance qui est importante pour battre Toulouse. Mais c'est une équipe qui est hyper dense, qui est quasiment impossible à manœuvrer, qui reste sur une super série. Bah, y a la victoire à La Rochelle, ils ont mis 44-7 au Stade Français chez eux juste avant. Ils avaient failli aller battre Toulon, ils perdent 30-27, mais où c'était très chaud aussi. Donc ils sont sur une super série, 5 victoires sur les 6 derniers matchs. Et en face, t'as le Racing, où il n'y a pas de plan de jeu. Non, j'abuse, mais il n'y a pas beaucoup d'idées dans le jeu, sauf qu'ils viennent d'aller gagner à Bayonne. Et du coup, ça les a repropulsés dans le top 6. Le Racing a plus gagné que Montpellier cette saison. Pour vous donner quand même un ordre d'idée,
c'est cherche tes arguments.
Mais non, mais vous, toutes les semaines, vous me dites pareil.
Vous les raclez le fond de tiroir.
Non, mais sauf que le Racing reste sur 3 victoires consécutives en top 14. Ils sont allés gagner à l'extérieur, je vous le disais, du côté de Bayonne. Et ils sont dans les 6. Et maintenant, il va falloir les sortir des 6. Et je ne dis pas qu'ils vont aller gagner à Montpellier du tout. Je dis que ça va être un match qui va être ultra engagé physiquement. Parce que c'est deux équipes qui mettent tout sur la ligne. Et Patrice Colazo l'a dit cette semaine, tout le monde va vouloir venir gagner à l'Arena parce que c'est un terrain où tu peux venir gagner, où tu peux faire du jeu. Et le Racing est un petit peu condamné à aller gagner à l'extérieur, même si pour l'instant ils sont invaincus chez eux. Mais ils n'ont pris que 3 bonus cette saison. Montpellier en a pris 10. C'est pour vous dire un peu l'écart qu'il y a. Le Racing n'a jamais surdominé un match, ou presque, sauf Montauban. Et même Perpignan, il gagne à l'arrache à la fin. Et donc, c'est un match que je trouve hyper intéressant parce que sur le papier, quand tu vois les deux équipes, tu te dis que ça va être un choc monstrueux.
T'es pas d'accord.
Roxane déteste le Racing 92.
Le Racing 92, mais alors vraiment, je trouve ça beau, tous tes arguments, mais je les vois pas du tout rivaliser avec Montpellier.
Alors, là-bas. En fait, je pense que ça sera. En vrai, je pense que ça sera serré. Mais
ah ouais, moi, je pense pas.
Mais c'est, en fait, c'est deux équipes qui ne sont pas les mêmes équipes, mais un petit peu. En fait, dans le style de jeu, comme disait Pierre, des équipes qui.
Ouais, mais j'ai quand même l'impression que Montpellier le fait, mais en mieux.
Bien sûr.
Mais ça, je suis d'accord avec ça.
C'est bien résumé. Non, c'est bien résumé.
Le fait en mieux, mais ils sont 2 points devant en classement. Donc, tu vois, je pense pas qu'il y ait 3 points. Je pense pas qu'il y ait un gap monumental entre les deux équipes.
Ouais.
Surtout que Montpellier aura quasiment tout le monde. Il y a très peu de blessés à Montpellier, sauf les Ninouchi, évidemment, et Adam Bird qui est avec le Pays de Galles. On attendait, je pense, de voir aussi ce que le MHR valait sans les Ninouchi.
Ouais.
Ils ont répondu les semaines précédentes.
Ils ont du monde derrière.
Ouais, voilà. Ouais. C'est ce qu'il faut. Le coaching de déplacer Florian Vérag en deuxième ligne, du coup, en troisième ligne à la place de les Ninouchi a très, très bien fonctionné sur les derniers matchs. Donc, il n'y a plus trop de. Enfin, je veux dire, on a les réponses qu'on attendait.
Non, mais justement,
de toute façon,
c'est quand même un match.
On prend 40, je préfère le dire. Ne pariez pas
protège-toi,
par rapport à ce que je vous dis. Hein,
c'est un match d'affrontement de 2 paquets d'avant.
Ah, mais c'est.
Et
ah
oui, Montpellier a. Julien Landry nous le répète toutes les semaines, l'un, voire le meilleur paquet d'avant du championnat.
Ils ont pour moi l'une des toutes meilleures premières lignes, en tout cas. Je trouve qu'en deuxième et troisième ligne, franchement, c'est.
Je pense que Julien dit n'importe quoi.
Oh, bah, c'est tout le temps ça. Non, mais je vais vous donner les compos, comme ça sera plus simple. La compo de Montpellier, c'est Forletta, Willy, c'est Oung Patin, Virac, Duguid, Tolène, Béconnier, Vunipola, ça c'est pour le paquet d'avant. Ali Price et Miotti à la charnière, Agnaou, Kado au centre, Moustin, Ngandébé aux ailes et Banks, l'homme qui ne se reposait jamais, titulaire à l'arrière. Et sur le banc, il y a aussi du très lourd. Je n'avais pas donné le banc tout à l'heure, mais là, il faut le donner. Tolofua, Erdosio, Chaluro, Massibaka, Léo Colli, Picardo, Taofi Fenua et Japaridze. Donc, évidemment, du très lourd. Et Montpellier, évidemment, favori sur cette rencontre. Côté Racingman, pas Yannick Tarit, qui a été resuspendu après une décision de la commission d'appel de la FFR, alors qu'il avait été réhabilité à jouer. Et il a repris quelques matchs en plus. Et donc, Escobar, qui fait plutôt des bons matchs, le talonneur chilien, et qui est titulaire entre les deux Géorgiens, Gogishashvili et Karaishvili. Johnny Hill, Romain Tao pour la deuxième ligne. Bodon, Maniarara et Tagi Tagivalu pour la troisième ligne. Carbono Sun à la charnière, Sun qui a fait quelques allers-retours à Marcoussi pendant le rassemblement. Joe Manu, Gaël Ficou au centre, pas de Josh Tuisova. Spring sur une aile, Ravu Tomada sur l'autre et Pricciantelli à l'arrière. Et là, juste rapidement sur le banc, on a également du Leno, du Nathan Hughes, du Abossi, du Tani Latupou. Donc ce qui est bien, c'est que dans ce match-là, ça va taper de la première à la 80e.
Même quand t'es en place au banc, ça ne va jamais s'arrêter.
Quand Tao va sortir, il y a Leno qui va rentrer, Tagivalu, il y a Hughes qui va rentrer. Et Tupou qui marque comme personne quand il sort du banc aussi, le pilier. Donc évidemment que Montpellier est favori. Je blaguais un peu en disant que le Racing pouvait gagner, mais je pense qu'ils peuvent rivaliser en tout cas pendant un moment du match et que ça peut être un match très intéressant.
Que dans le contenu, en tout cas, ce sera serré.
Ce sera pas beau, mais ce sera intense.
Ce sera pas beau, ce sera intense.
Voilà. Je pense que c'est l'adjectif du match.
côté joueur à suivre, je rappelle l'horaire de ce match, c'est dans le multiplex, hein, c'est à 16h35.
Que d'ailleurs, je trouvais que c'était un match de 21h plus que le Castres-La Rochelle.
Plus que le Castres-La Rochelle, parce que j'allais rappeler aussi l'horaire du Castres-La Rochelle qu'on n'a pas donné, qui est l'affiche du samedi soir sur le papier. On verra ce que ça va donner. Après, on a eu des très belles affiches qui n'ont rien donné au final sur celle de 21h depuis le début de la saison. Peut-être que cette fois-ci, ils vont nous surprendre, qui sait. Côté joueur à suivre, Arthur.
Ben, on en parlait justement il y a quelques minutes, et on en parlait surtout il y a quelques mois déjà. C'est Nicolas Paul Orsi qu'on embrasse, qui nous en avait parlé. Joseph Larrague, numéro 10 de Bordeaux, qui a 19 ans. Parce qu'à Bordeaux, en ce moment, Mathieu Jalibert, il n'est pas là. Joey Carberry, il est blessé. Et Bordeaux a fait le choix de ne pas recruter de joker médical pour faire de la place à, justement, ce jeune Joseph Larrague. Contre Castres, il a été très, très bon. On a le souvenir d'une schistera à l'aveugle pour Cameron Ouoki qui l'envoie à l'essai. On a le souvenir d'un retour intérieur aussi pour Damien Penaud dans les 22 mètres castrés qui l'envoie l'essai aussi. Il a été très bon à la baguette de cette ligne de trois quarts qui a fait exploser Castres complètement. Il est très intéressant, ce joueur-là. Il n'a pas beaucoup joué pour l'instant. Il avait 87 minutes avant sa titularisation à Castres. Quand on voit la performance qu'il a été capable de délivrer, sachant qu'il avait quelques minutes en top 14, dont une titularisation contre Toulouse où ça a été très très compliqué pour Bordeaux, devant plus de 30 000 personnes. Avec toute cette pression-là et le contexte dans lequel il évoluait, il a délivré un super match. Je ne dis pas que ça sera la clé du match contre Pau, mais je veux dire que si lui est au niveau sur ce match-là, et s'il est au niveau, il peut continuer à avoir beaucoup de temps de jeu jusqu'à la fin de la saison. Et ça peut être une solution, un troisième voire deuxième 10 pour la saison prochaine pour Bordeaux, une solution super intéressante. Vas-y, je t'en prie.
Non, j'ai un beau duel avec Despérès, qui sont, c'est tous les deux des ouvreurs qui sont
très prometteurs.
Despérès, c'est un peu plus vieux, mais un peu même physiquement, qui ont un peu ils paraissent un peu encore fragiles, pas tout à fait finis, mais qui font tous les deux des belles saisons, même si Despérès c'est plus prouvé à Pau.
Tout à fait. Sachez d'ailleurs que c'est le fils d'un ancien international, Julien Larrague. Peut-être que ce nom vous dit quelque chose. J'ai retrouvé ça. J'ai pas beaucoup de souvenirs de l'avoir vu jouer.
Perpignan.
C'est la grande génération de Perpignan qui est championne en 2009. Avec Nicolas Durand, avec David Marty, avec Jérôme Porrical.
Ça va faire mal aux vieux Templiers et Landry qui vont nous écouter en disant il y a des gens qui ont été champions de France en 2009, qu'ils ont sans doute commenté.
Sachez que pendant que Arthur disait ça, j'avais la voix de Julien Landry qui nous dit « Et c'est là qu'on voit qu'on vieillit parce qu'on commence à commenter les enfants de ceux qu'on commentait au début de notre carrière. » Ça vous arrivera aussi un jour.
Bien sûr.
Ouais, chacun son tour.
Déjà, il y a eu le moment où les joueurs étaient plus jeunes que toi sur le terrain. Ça, c'est quand tu as 17-18.
Première petite claque.
Déjà, tu prends un petit... Ouais. Ah tiens, 20, 21. Donc là, tu as 25 ans et les gens qui arrivent en ont maintenant 18. Okay.
Bon, bah, et tu n'as que 25 ans. Moi, je commence à arriver dans la période où les joueurs... On commence à dire qu'ils sont vieux.
Oh là là.
On dit qu'ils sont vieux sur le terrain.
Deuxième claque. C'est la deuxième claque dans le processus.
Je ne dirais pas quel âge.
Greg Aldridge, genre. Par exemple.
Je suis de la même année que Greg
Aldridge. Je sais, c'est pour ça que je dis ça.
Ton joueur a suivi.
Oui, bah pour parler des très jeunes, un joueur qu'on ne connaît pas du tout, Mikhaïli Chiochvili, troisième ligne géorgien. C'est le joueur dont j'ai le plus entendu parler sur Twitter, sur X désormais, par les supporters toulonnais, parce que c'est le troisième ligne centre titulaire à Toulon, sans qu'il y ait aucune image de disponible.
Si, il a, des mois.
Non, mais il
mois.
A son actif 5 matchs du championnat du monde du 20. Il n'a jamais joué avec le RCT, il est avec l'équipe Espoir. Donc les suiveurs assidus du RCT vont le voir en Espoir et disent « ça va être énorme, quand il va arriver, ça va être dingue. » Il fait 1m93, c'est un Géorgien, globalement, dans son physiquement. Vous allez voir, c'est un Mikotadze, mais sous stéroïdes. C'est-à-dire qu'il est énorme, il est costaud, il va très vite, il est très puissant. Je vous conseille d'aller voir, il y a des highlights de champion du monde du vin où il marche sur des enfants de son âge, mais il leur marche dessus. Non, mais en tout cas, ça a l'air d'être vraiment une bombe physique. Et ça va être très intéressant de le suivre parce que je trouve qu'en plus, Toulon manque un peu de gros porteurs devant, de joueurs très dynamiques. Ils ont Ludlam qui est un bon porteur, Riban c'est un peu moins bon cette année, mais Abadi, Mezou, c'est pas des mecs qui ont une dimension physique dingue. Et je trouve que Chiochvili peut en tout cas apporter s'il est au niveau tant annoncé. Donc voilà la nouvelle bombe du rugby géorgien qui arrive sur les pelouses. Et j'en avais prévu un autre, donc juste je dis rapidement, mais Ali Veretti Loaloa, le centre clermontois, qui est à nouveau titulaire face à Bayonne, qui a fait un énorme match à Toulon, qui avait eu un début de saison compliqué, qui enchaîne toutes les titularisations et qui monte bien en puissance à Clermont aussi.
Très bien. Et bien avec tout ça, vous êtes armés pour aller voir tous ces matchs ce week-end, vu qu'il n'y a pas de tournoi destination, évidemment. Petit week-end sous le plaid à regarder du top 14.
Tranquille.
Ça fait plaisir aussi. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Dès lundi, c'est le retour du tournoi. Donc, prochain apéro des poteaux le vendredi 20 mars. On va refaire une pause de 2 semaines. Chaque chose en son temps pour le top 14. D'ici là, qui sait, on aura peut-être remporté le tournoi et on aura peut-être même réalisé le grand chelem. On verra ça, on en débriefera évidemment dans Entre les poteaux. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Passez un bon week-end et à lundi.